Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous montrer trois photos, c'est un peu risqué, parce qu'on a des Brésiliens parmi nous, juste devant moi-même. On a des Américains qui sont là aussi. Je ne sais pas si on a des vrais Juifs ici avec nous, mais peut-être. En tout cas, il y a trois photos devant vos yeux. Ce que je vais dire, ce n'est pas une déclaration politique. Je vous invite à méditer un peu les trois photos qui sont devant vous pour trouver le point en commun. Ne répondez pas tout de suite. Ça va prendre un temps. On va examiner chaque photo d'un petit peu plus près. Donc, on peut avancer sur une première photo. Je vous propose une légende qui allait avec cette photo. Là, des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont envahi dimanche les principaux lieux de pouvoir, le Congrès, la Cour suprême, le palais présidentiel, faisant beaucoup de dégâts, tout ça au Brésil. Une deuxième photo, avec une légende aussi, le 6 janvier 2021. Des partisans de Donald Trump répondent à ses appels contre les institutions démocratiques et prennent d'assaut le Congrès américain en plein jour. C'est juste des faits historiques que je raconte ici. C'est pas politique. Et puis, une troisième photo, un autre fait historique. Une semaine avant la Pâque des Juifs, une foule nombreuse de pèlerins venus à Jérusalem pour la fête de Pâques et équipés de branches de palmiers accueillent Jésus en criant « Hosanna, sauve maintenant !» tout en déclarant Jésus le roi d'Israël. Donc là, je vous repose la question, qu'est-ce que ces trois photos ont en commun si on devait résumer le lien avec un ou deux mots? Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent à l'esprit? Des foules, effectivement. Révolution. Ok, peut-être des éléments de révolution, tout à fait, là. Un côté politique et puis une autre.
Autorité.
Autorité, effectivement.
Soulèvement.
Un soulèvement, d'accord. Que des réponses justes. Je pose juste une autre possibilité. Le mot nationalisme. Quand Jésus arrive à Jérusalem pour fêter la Pâque suite à la résurrection de Lazare en chapitre 11, une ferveur nationaliste monte en crescendo avec une foule nombreuse qui est prête à couronner Jésus comme le roi d'Israël. J'imagine pour certains, par force si nécessaire. Et juste pour vous donner une idée de l'esprit qu'on avait, à ce moment-là, la foule était en train de chanter, de crier, quel psaume ? 118. On vient de regarder, de lire, de prier sur la base de ce psaume. Eh bien, c'est le psaume qui était sur les lèvres de la foule. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelques versets un peu choquants. Quand même. Et ces versets vous donnent quand même un aperçu de l'esprit qui anime cette foule. Je vais les lire. « Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Est-ce que ça vous a parlé tout à l'heure? Il n'y a personne qui a prié sur ces versets. Ça m'a surpris un petit peu. « Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Hosanna ! Sauve maintenant ! C'est ça l'esprit de la foule qui accompagne Jésus et qui le déclare roi d'Israël. Notre roi. Celui qui vient au nom de l'Éternel, selon ce psaume, c'est celui qui taille en pièces les nations qui encerclent le peuple d'Israël. Et tout ce qu'on attend maintenant, avec Jésus qui est là, à Jérusalem, c'est qu'il monte sur son cheval de guerre, comme a fait un autre héros juif deux siècles auparavant, un homme qui s'appelait Judas Maccabée, qui a délivré pour un peu de temps les Juifs de la domination gréco-syrienne avec une suite de grandes victoires militaires. Eh bien, notre héros militaire, il est là, aux portes de la ville de Jérusalem, Hosanna, qui taille en pièces tous nos ennemis. Et vous pouvez imaginer la confusion de la foule, peut-être même des disciples de Jésus aussi, quand Jésus s'assoit, non pas sur un cheval de guerre, mais sur quoi ? Un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Et on peut se poser la question, ok, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Et c'est vrai que le choix de l'ânon comme moyen de transport était censé évoquer une autre parole prophétique de l'Ancien Testament. La foule a le psaume 118 en tête, Jésus a un autre passage biblique en tête. Et cette métaphore, cette parabole visible, vivante, devant les yeux de tout le monde, était censée réorienter les regards vers un autre texte. Un passage de Zachée, chapitre 9, qui dit ceci. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations. » Fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il supprimera les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le texte que Jésus en tête en arrivant aux portes de la ville de Jérusalem pour fêter la Pâque des Juifs. Et donc ces foules, quasi affolé pendant un temps par une ferveur nationaliste, se retrouve face à une question troublante dans ce chapitre charnière de l'évangile de Jean. Est-ce que Jésus, ce Jésus-là, assis sur son ânon, est-ce que c'est ça le leader victorieux que l'on attendait? Ou est-ce qu'on doit chercher quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on s'est trompé de roi? Je pense qu'on va se poser ce genre de questions aussi, nous, en examinant de plus près ce chapitre 12 de Jean. Parce que ce Jésus qui arrive à Jérusalem, assis non pas sur un cheval de guerre, mais sur un ânon, il a tendance à nous surprendre. Et il a quelque chose de prévu pour nous encore, pour aujourd'hui. Je pense qu'il risque de nous surprendre. Je vais juste prier, encore une fois. Et puis, je vous présenterai un peu l'idée centrale de ce message. Donc, prions. J'aimerais juste remettre la suite de ce temps, Seigneur, entre tes mains. C'est un texte encore tellement riche, avec tellement de choses, tellement de petits trésors, de bijoux. On n'a pas le temps de tout traiter. On va pouvoir juste se focaliser sur quelques points. Et ma prière, Seigneur, c'est que par ton Esprit Saint, tu te serves de ce moment d'enseignement pour nous instruire avec ce dont on a besoin aujourd'hui. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes, des frères, des sœurs, des invités qui sont là, qui sont juste assoiffés intérieurement, qui arrivent avec des besoins réels. Et le vrai besoin, c'est un besoin de toi et de ta parole vivante. Il n'y a que ton Esprit Saint qui peut nous transmettre, nous donner cette parole aujourd'hui. Et ma prière, c'est que je sois juste un outil entre tes mains pour que tu parles, Seigneur, toi, à ton peuple. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Voici une idée centrale pour ce petit message, sur un grand texte quand même, qui vient directement du verset 32 du chapitre 12. Et c'est Jésus qui parle et dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Idée centrale, avec deux points qui se situent à l'intérieur de ce verset. Premier point, quand j'aurai été élevé de la terre, en verset 23, Jésus parle aussi de cette idée d'être élevé dans sa gloire. C'est la même chose, le même moment. On va se focaliser sur ça. Et puis, deuxième élément, j'attirerai tous les hommes ou tout type de personnes à moi. Donc un petit peu de contexte avant de nous attaquer à ces deux points, juste pour nous situer un petit peu dans l'évangile de Jean. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a fait une synthèse rapide des 11 premiers chapitres de Jean. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est dispo sur SoundCloud. On a fait très rapidement la synthèse. Là, j'aimerais qu'on regarde quand même devant nous. On va où maintenant avec la suite de Jean? Donc là, en Jean chapitre 12, Jean, l'évangéliste, il va nous préparer, les lecteurs, pour le départ imminent de Jésus. Et Jésus va le dire à plusieurs reprises dans notre texte, « Je ne serai pas toujours avec vous. Vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Et donc Jean nous prépare ce moment de son départ, du départ imminent de Jésus. Puis en chapitre 13 à 16, et c'est là où la semaine dernière, on a fait un petit teaser pour mettre l'eau à la bouche pour cet enseignement sur l'Esprit Saint. On va traiter ça dans quelques semaines. Mais dans ce passage, chapitre 13 à 16, Jésus lui-même va préparer ses propres disciples pour son départ imminent. Chapitre 17, Jésus va prier pour lui-même, pour ses disciples et puis aussi pour des futurs croyants comme nous, en anticipation de son départ imminent. Et puis dans les chapitres qui restent, 18 à 21, c'est là où Jean nous montre l'heure. L'heure dont on parle depuis le début de l'évangile de Jean est enfin arrivée. L'heure de l'arrestation de Jésus, de sa condamnation, de sa crucifixion, de sa mort, de sa mise au tombeau, de sa résurrection et puis de ses apparences à ses disciples suite à sa résurrection. Donc voilà où on va. On se prépare pour le départ imminent de Jésus, ce Jésus qui va faire tout ce qui est nécessaire pour que nous, ses propres disciples, les futurs croyants, on soit entre de bonnes mains au moment où il quitte cette terre. Donc, premier point, élevé de la terre. Et je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler d'un écrivain français, mais d'origine russe du 20e siècle, Romain Gary. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Ouais, je vois des têtes qui me rassurent quand même. Eh bien, lui, il fait la distinction entre le patriotisme et le nationalisme. Je ne sais pas si la question se pose pour vous. Mais il fait cette distinction ainsi. Il dit le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Je trouve ça assez intéressant, surtout sachant que, en tout cas chez nous, le nationalisme est souvent caractérisé par un discours qui concerne des murs qu'on construit pour nous séparer de certaines personnes, des groupes de personnes. Donc le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et sans rien dire de plus, des expressions explicites de haine de la part de certains, en tout cas des supporters de Jair Bolsonaro. Oh là là. Au Brésil, le 8 janvier, ou de la part des supporters de Donald Trump à Washington, le 6 janvier 2021. Ce qui est clair dans le Nouveau Testament, c'est que cette distinction qui fait Romain Gary s'applique quand même au peuple juif à l'époque de Jésus. Il y a une haine qui est claire, qui est explicite, qui est palpable, qui même... c'est quoi le mot que je cherchais? Bon, on peut le sentir, c'est évident pour les peuples qui les entourent. Et dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul en parle. Et il parle justement, et c'est intéressant, le mot qu'il choisit. En Éphésiens chapitre 2, il parle d'un mur. Il fait référence à un mur de haine qui séparait le peuple juif des autres peuples. Et quand lui, il parle de ce moment, quand Jésus sera élevé de la terre, un des objectifs de ce moment, c'était pourquoi détruire ce mur de haine qui séparait les Juifs des autres peuples. Donc quand Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, assis sur un ânon, lui, il fait une déclaration, c'est clair, mais ce n'est pas une déclaration de guerre. Je pense que vous avez bien compris, c'est une déclaration de paix. Et c'est une déclaration de paix qui concerne justement toutes ces nations qui entourent le peuple d'Israël. C'est comme si Jésus déclare notamment aux Juifs nationalistes notre ennemi n'est pas le peuple romain, le peuple grec, ou le peuple samaritain, ou le peuple, Chloé avait une suggestion aussi, égyptien par exemple, voilà, ou syrien. Notre ennemi, c'est justement cette haine qui nous sépare de tous ces peuples, qui nous empêche de les aimer comme notre Dieu nous a aimés, alors que nous étions ses ennemis à cause de nos péchés. Et donc avec cette prophétie de Zacharie 9 en tête, où on voit qu'il y a un roi qui vient annoncer la paix aux nations, Jean nous raconte en verset 21 le moment charnière de son évangile, le moment où des non-juifs demandent à Philippe, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Est-ce que vous avez remarqué ça dans le texte, ce moment clé? Et vous vous souvenez du fait qu'à plusieurs reprises, on a entendu Jésus dire « Mon heure n'est pas encore venue. Non, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Et alors là, des non-juifs, des membres de ces peuples qui encerclent le peuple juif, arrivent, des Grecs, pour fêter la fête des Pâques, pour adorer le Dieu des Juifs avec tous les pèlerins. Et quand ils découvrent que Jésus est là, ils disent « On a envie d'aller le voir. » Et Jésus, quand il découvre ça, il déclare, eh bien là, ça y est, l'heure est arrivée. Et c'est à ce moment-là, quand des non-juifs viennent le chercher, que Jésus dit effectivement, c'est parti pour la suite. Et au cas où ses disciples ne comprennent pas cette déclaration, lui, il continue sa réflexion en verset 24. Je vous invite à regarder ce verset avec moi dans vos Bibles. Verset 24, où il dit, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et donc la question ne se pose plus. Quand Jésus parle du fait d'être élevé dans sa gloire, il fait clairement référence à quel moment ? À sa mort, à la croix. Sa mort sur une croix romaine où il sera littéralement, physiquement élevé de la terre. Séparé même de la terre par un poteau, un bout de bois. Et voilà pourquoi il dit en verset 27, en anticipation de ce moment de souffrance et de mort, « Maintenant, mon âme est troublée. » Est-ce que vous avez vu ce petit moment où on a un aperçu des émotions de Jésus face à la réalité de sa mort qui arrive ?« Maintenant, mon âme est troublée. » Et que dirais-je ? Que dirais-je face à ce que je ressens là, actuellement, dans mon âme? Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que ça vous fait penser à un autre moment dans les autres évangiles? On n'a pas ce moment dans l'évangile de Jean, mais les autres évangiles racontent un autre moment où on a un discours un peu similaire. Vous pensez à... est-ce que ça vous... Ouais. Vas-y, c'était... Ok, peut-être, mais je pensais à un autre moment à Gethsémané. C'est exactement ça, effectivement, ouais. C'est Gethsémané. Vous vous souvenez de la prière de Jésus à ce moment-là? Eh bien, là, en Jean, on a la version de Jean de cette prière-là. Qu'est-ce que je vais dire? Mon âme est profondément troublée. Que dirais-je, Père? Délivre-moi. Enlève cette coupe. Non. C'est pour cela, c'est pour ce moment-là que je suis venu. Et tout comme il a dit à Gethsémané, « Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », c'est en gros exactement ce qu'il dit ici. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc ça, c'est le premier point. Plus rapidement sur le deuxième. Tous les hommes. Et là, j'aimerais vous inviter à vous mettre dans la peau des disciples qui entendent cette déclaration extraordinaire. Tous les hommes, qui est juste une manière de dire tout type de personnes. Vraiment, Seigneur? Tout type de personnes. Et on peut imaginer des questions qui commencent à se poser dans leur tête. Et peut-être ce sera pareil pour vous. Peut-être en pensant, mais tout type de personnes, Seigneur, vraiment? Même des pharisiens? Seigneur, des pharisiens? Oui. Même des pharisiens viendront à moi. Et les samaritains? Seigneur, même eux? Oui, même des Samaritains me suivront. Même des Romains, Seigneur. Des Romains? Oui, même des Romains croiront en moi. Et des Grecs? Oui, des Grecs. Et des Africains? Oui, il y aura des Africains. Et des Asiatiques aussi? Oui. Et des Arabes aussi? Oui. Et des Argentins? Ah ben là, non. Je suis désolé. Ça, c'est trop. Bon, je suis désolé pour les supporters des Bleus, mais il y aura même des Argentins. Ils ont un autre Messie. Oh, Johan. Blasphème. Aïe, aïe, aïe. Oui, même des Argentins quand même. Même des méchants, Seigneur, oui. Même des meurtriers, Seigneur, oui. Même des adultères, des prostituées, des alcooliques, des colériques, Seigneur, oui. Il y aura tout ça dans mon royaume. Même ceux qui nous ont fait mal, Seigneur, ils seront là. Oui, il y en aura. Ma grâce suffit pour toutes ces personnes, tout type de personnes. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tout type de personnes à moi. Ce sera difficile de comprendre l'amour de Jésus, même pour ses ennemis, sans comprendre ce qu'il dit en verset 25. Et j'attire votre regard sur ça. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie, c'est fort quand même. Dans ce monde, la conservera pour la vie éternel. Et on a l'impression que Jésus est en train de nous dire quelque chose de bizarre. Plutôt que de haïr et de détester nos ennemis comme on aime faire, et comme on fait tout naturellement, eh bien là, il faut détester nos propres vies. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée-là? Moi, je ne suis pas très à l'aise, honnêtement. Et je n'ai même pas l'impression que Jésus vit ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait, face à la réalité de sa mort, la réalité de sa mort qui s'approche, quelle est sa réalité intérieure? Ben, il est troublé, profondément. Mon âme est troublée. Il a envie de vivre Jésus comme nous. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ce qui est quand même fascinant, c'est que Jésus dit quelque chose de similaire et de aussi troublant, je peux le dire comme ça, en Luc chapitre 14. Et c'est quand même intéressant de voir que les traductions françaises n'aiment pas ce que dit Jésus ici. C'est bizarre. On traduit le mot différemment. En fait, si vous ouvrez la Bible, je ne sais pas à quelle page, mais c'est Luc chapitre 14. Et les traductions françaises modifient quand même les mots. Pour adoucir un petit peu le message, en Luc 14, le verset 26, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans détester son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que vous avez dans vos traductions là? Son préféré. Ouf. Mais en fait, les traductions françaises ont plutôt raison. Ah, c'est rassurant. En fait, si Jésus voulait dire vraiment avoir de la haine dans nos cœurs pour nos parents, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nos propres vies. Qui aurait envie d'être chrétien? Qui aurait envie d'être avec des chrétiens? Ce serait horrible. Donc, il doit y avoir un autre message quelque part là-dedans. Et franchement, je pense que les Français ont raison. Si vous regardez... Désolé, j'ai sauté quelque chose là. Ouais, je trouve que cette modification reflète bien le sens d'une expression idiomatique qui est assez courant chez les Juifs. Je ne sais pas si vous avez jamais vu en Romains, chapitre 9, Paul cite un texte, je crois que c'est de Malachie, où Dieu dit « Jacob, j'ai aimé, Ésaü, j'ai détesté ». Est-ce que vous avez vu ça? Et c'est assez troublant encore. Mais en fait, si on sait comment fonctionne le cerveau juif, et on sait qu'en fait, c'est juste une expression idiomatique pour exprimer une préférence, un choix qui est fait entre deux choses, justement, qui ont de l'importance et qui ont de la valeur. Et le fait de parler d'amour d'un côté et de haine de l'autre côté, c'est une manière de dire, il y a de l'enjeu dans ce choix. Il y a de l'enjeu dans cette préférence. Il y a deux choses qui ont une valeur énorme. Et moi, j'ai préféré l'un plus que l'autre. Et donc dire, j'ai aimé Jacob, alors que j'ai détesté Ésaü, c'est une manière de dire que j'ai quand même fait un choix entre deux choses, deux personnes, deux peuples dans ce cas, qui ont énormément d'importance pour moi. Ça, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Et ça nous aide à mieux comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit détester ses parents, sa femme, etc. C'est pas avoir de la haine. Non, on fait un choix qui coûte cher. Un choix qui peut être parfois douloureux, parce qu'il y a de l'enjeu. Parce que ces deux réalités ont énormément d'importance. Mais je préfère une personne, une chose, plus que l'autre. J'ai aimé et j'ai détesté. Donc c'est important de saisir cette idée-là pour bien comprendre ce que Jésus est en train de nous dire ici. En Jean 11, Jean a clairement dit que Jésus aimait Marthe. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça il y a quelques semaines. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Mais alors que Lazare était malade et Marthe et Marie envoient des serviteurs pour aller demander à Jésus de partir tout de suite dans l'urgence pour venir en aide, est-ce que vous vous souvenez du choix de Jésus qui aimait Marthe et Marie et Lazare? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté encore deux jours là où il était. Le temps nécessaire pour que Lazare meure. Et là, on pourrait dire, même si ce n'est pas dans le texte, Jésus a aimé la volonté de son Père. Il a détesté Marthe, Marie, Lazare. Est-ce que vous comprenez la logique là? Il aime, c'est toi. Mais il a donné préférence. Il a fait un choix douloureux. Pour que ses disciples arrivent à reconnaître et à se réjouir de la gloire de son élévation sur la croix et de tout ce que cela impliquait pour les autres nations de la terre, y compris les ennemis actuels du peuple juif, il fallait qu'ils apprennent à détester leur propre vie de cette manière-là que je viens de décrire. Comme Jésus lui-même allait détester sa propre vie afin d'accomplir la volonté de son Père, en souffrant en sacrifice pour le pardon de tous nos péchés, afin de détruire le mur de la haine qui nous séparait. Question pratique. À quoi ressemble le fait de détester sa vie en donnant priorité à la volonté du Seigneur? Pour nous, quelques exemples rapides. Et le premier vient de Jean, en fait. On reste avec lui. Jean nous propose un élément de réponse dans une de ses lettres aux églises. Donc 1 Jean, chapitre 3 et le verset 16. Jean dit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ok, oh, attends, Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a donné sa vie en mourant. Oh là là. Il est mort sur la croix. Est-ce que tu me demandes de faire pareil? Bien sûr que non, on est tous d'accord. Ok, mais Jean, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Eh bien là, il précise, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Donc voilà une mise en pratique. C'est Jean lui-même qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire, détester sa vie. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a donné une occasion de faire ce genre de choix. Est-ce que j'allais aimer ma propre vie ou mes préférences ou les détester? Est-ce que j'allais donner priorité à mes propres désirs ou plutôt obéir au Seigneur en faisant preuve d'un amour concret envers mes frères et sœurs en Christ? C'était la dernière semaine de la Coupe du Monde. L'équipe de France a gagné contre le Maroc. Allait jouer contre l'Argentine dans la finale. Mais le match était programmé pour un moment désagréable. Un moment pas très opportun. En même temps que notre culte. Que notre rassemblement. Vous vous souvenez de ça? Aïe, aïe, aïe. J'en ai parlé avec les autres responsables. On était tous d'accord sur l'idée de déplacer l'heure de culte pour regarder le match. J'étais très content de notre unité. Un signe. Sauf que j'avoue que j'étais trop troublé intérieurement. Quelque chose n'allait pas bien dans mon esprit. Et j'avais en tête l'idée de contacter un couple de l'église que je respecte beaucoup pour demander un avis. Donc, petit coup de fil. Et au bout de cet échange téléphonique, je savais de manière très claire ce que le Seigneur me demandait de faire. Ne pas déplacer le moment du culte. Hop. Le Seigneur avait autre chose prévue pour moi, pour ce moment-là. Donc c'était douloureux comme choix. Mais pour moi personnellement, la volonté du Seigneur était claire. Nico, tu ne déplaces pas un rassemblement en mon nom pour regarder un match de foot. Bon, petite parenthèse. J'aimerais vous rassurer que je ne vous juge pas. Pour ceux qui ont regardé le match, toute ma famille sauf moi a regardé le match. Ma femme, mes enfants, mes parents, mes cousins. Et ça peut continuer. J'étais peut-être le seul membre de ma famille à ne pas regarder. Et je ne juge pas ces personnes. Les amis, regarder un match de foot n'est pas un péché. Il n'y a aucune condamnation pour vous. Mais pour moi, le Seigneur avait quelque chose à me dire en tant que pasteur. Non, Nico, c'est pas pour toi. Et là, il m'a invité à détester la Coupe du Monde. À détester mes propres désirs. À donner préférence à ce qu'il voulait que je fasse. Avec ceux qui avaient cette même conviction ou juste qui n'aiment pas le foot. On était nombreux finalement. J'aimerais conclure avec deux points d'application. Un avertissement et un acte exemplaire, inoubliable dans notre texte. Donc d'abord l'avertissement. Et je vous invite à regarder le verset 35 vers la fin de notre texte. Jésus leur dit... La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, pendant que vous avez la lumière. Croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Et puis après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'elle. On peut parler de ça presque comme une parabole actée avec Jésus qui part. Donc cette déclaration de Jésus marque la fin de son enseignement officiel, au moins dans l'évangile de Jean. On aura encore un petit paragraphe à la fin du chapitre 12 qui est complètement détaché de l'histoire. On ne sait pas où se situait ce paragraphe dans la suite des événements. Et on sent que Jean utilise ces derniers versets de Jean chapitre 12 pour faire une synthèse de l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Mais là, on sent qu'avec Jésus qui ferme sa déclaration et qui s'en va, en fait, on arrive à la fin de l'enseignement public de Jésus en Jean, et là, on va passer un temps plus privilégié, intime avec ses disciples par la suite, avant sa passion. Qu'est-ce que Jésus dit avec cette dernière déclaration? Vous n'aurez pas toujours la lumière, les amis. Et ça, c'est vrai à deux niveaux. Ça, c'est vrai à un niveau parce que Jésus lui-même était physiquement présent dans le monde. Il est la lumière du monde. Et comme il a dit à plusieurs reprises dans le chapitre 12, et il dira encore dans les chapitres qui suivent, je vais partir. Je ne serai pas toujours avec vous. Donc pendant que je suis là, marchez à la lumière de ce que je vous enseigne. Ça, c'est un niveau de compréhension de ce texte. Mais il y a un deuxième, à mon avis, parce que Jean va reprendre ces mêmes thèmes et ces mêmes mots plus tard dans ses épîtres, ces thèmes de la lumière. Et la réalité, c'est que pendant que le corps de Christ, les enfants de lumière, l'Église, pendant qu'on est là dans le monde, avec l'Esprit de Christ qui vit en nous, la lumière est encore là. On annonce la vérité à ceux qui nous entourent. On les invite à changer d'attitude, à détester leur vie, pour aimer Christ plus que toute autre chose et vivre une vie nouvelle, une vie éternelle. Cette lumière est encore présente aujourd'hui, mais attention, cette lumière ne sera pas toujours là. Les ténèbres arrivent, un moment où il ne restera que des ténèbres. Et Jésus dit, préparez-vous, marchez maintenant dans la lumière. Profitez de ce temps pour que vous ne soyez pas surpris par les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, lui, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas où il va. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais j'aimerais conclure en vous invitant juste à relire un moment extraordinaire dans ce chapitre et dans cet évangile. Et c'est un acte tout simple qui arrive tout au début de notre passage, en verset 3. Et je relis juste les premiers quelques versets avant de terminer dans la prière. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, comme d'hab, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Pourquoi est-ce que cette histoire est racontée dans tous les évangiles? Et pourquoi est-ce que Jésus dit, partout où on prêchera l'évangile, on va parler de ce que Marie vient de faire ici? Pourquoi est-ce que ce moment a tellement d'importance? Ben moi, je crois que ce que fait Marie ici, c'est ce que chacun de nous, on est appelé à faire. À détester notre parfum, nos propres trésors, peut-être notre fierté, et à aimer Jésus avant tout, à tout donner, à tout verser à ses pieds, sachant que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Je vous invite à prier avec cette image en tête. Tout à l'heure, en méditant ce passage, Seigneur, j'étais confronté par quelque chose qui n'était même pas présent dans ma tête pendant ma préparation pour cette prédication. Et c'était l'idée que, en suivant la logique juive, aimer, détester, À chaque fois que je donne préférence à autre chose dans ma vie, à mes propres désirs, à ma propre volonté, à mes propres projets, peut-être à diverses voix que j'ai envie d'écouter, d'entendre, à chaque fois que je donne préférence à ces choses, je les aime et je te déteste. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, Seigneur, ma vie. Je veux t'aimer avant tout. Et selon cette logique juive, détester tout le reste. Que tu aies la place principale, prioritaire, première dans ma vie. Et que tout le reste passe après, Seigneur, même ma propre vie. Je n'arrive pas à vivre ça tout seul. C'est que par ton Esprit Saint, grâce à ton œuvre à la croix, que j'arrive à le vivre. Et donc, je te demande, Seigneur, de vivre cette vie-là que tu appelles la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen.